Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, je te glisse quelques mots sur le Toyota Venza que j'ai mis à l'essai ces derniers jours.
Est-ce que son câble de système hybride était corrodé?
Ben, étant donné que le véhicule était pratiquement neuf, ça ne s'est pas produit encore.
Non.
Mais okay. Si on se fie à ce qu'on observe actuellement, ça ne saurait tarder. Malheureusement, défaillance sur les véhicules hybrides chez Toyota.
Ouais.
Donc, la fameuse couette orange là semble très mal protégée et ça dépend pas couvert par la garantie. Salutations aux avocats chez Toyota qui ont très bien réalisé le carnet de garantie de la marque.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on s'est bien protégé. Puis c'est comme si on savait que ça allait être défectueux. Mais en tout cas, fin de l'éditorial. Toujours est-il que le Venza, effectivement, pour moi, brille par son efficacité. Au terme de la semaine, la moyenne de consommation est exactement celle annoncée, c'est-à-dire 6,1 litres aux 100 km.
C'est excellent.
Ouais. Surtout considérant que dans le segment des VUS intermédiaires à deux rangées,
il n'y a rien
d'autre d'hybride. C'est des véhicules qui sont vieillissants et qui sont portés à être mis à jour éventuellement. On pense au Nissan Murano pour lequel on attend un remplaçant continuellement.
Le Ford Edge,
voilà, c'est long aussi. Bon, il y a le Passport qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais qui dérive du Pilote qui, lui, est très vieux. Donc, bref, d'en voir quelque chose d'un peu plus moderne qui consomme pas trop. C'est franchement très bien. Bon, la puissance 216 ou 219 chevaux là, de mémoire, c'est peut-être un petit peu juste. Là. On aura évidemment pas les performances qu'on aurait ailleurs avec un V6. C'est sûr qu'en milieu urbain, la présence de l'hybride, elle, on l'apprécie énormément pour les départs. Mais sinon, sur route, bon, on n'a pas...
Est-ce que ça t'a donné l'impression d'un véhicule Lexus?
Absolument.
Tu sais, moi, c'est vraiment ce que... J'ai vraiment l'impression d'un Lexus avec des lignes plus adoucies qui vont juste mieux vieillir.
Ben, c'est drôle que tu me mentionnes ça parce que j'écrivais ces derniers jours le texte qui sera publié dans le guide de l'auto 2023 et un de mes sous-titres, c'était « Presque un Lexus ». Effectivement, la calandre qui n'est pas en forme de sablier, ça lui fait beaucoup de bien comparativement à Lexus. Et surtout qu'on vend principalement des versions XLE et Limited qui sont bien équipées. À bord, on a l'impression de se trouver effectivement à bord d'un véhicule plus premium. On ne joue pas la carte d'offrir du bonbon pas cher avec ce véhicule-là. Et ça fait bien le travail. Contrairement au véhicule Lexus, il n'y a pas de pavé tactile. Première bonne nouvelle.
Ouais.
Mais... là où j'ai trouvé qu'on n'avait pas atteint le niveau premium, c'était avec le système d'infodivertissement. Oui, l'écran est assez gros, mais c'est une infographie Toyota qui date d'il y a plusieurs années.
Oui, on est dû, là.
Je pense que mon micro-ondes a une meilleure définition et je n'ai pas un micro-ondes moderne. Bref, c'est un peu décevant de ce côté-là.
Est-ce que ton micro-ondes a du faux bois?
Il pourrait. Mais je suis certain que Toyota pourrait en vendre plus et connaître un meilleur succès si on était capable d'en livrer autant que la clientèle en demande. De ton côté, tu t'es déplacé en Colombie-Britannique pour mettre à l'essai le nouveau Kia Sportage, un véhicule très attendu.
Un véhicule qui, à la fois, m'a étonné et m'a laissé sur mon appétit parce que, évidemment, on se serait attendu à ce que Kia nous présente sa gamme complète de Sportage. Parce que on est à la croisée des chemins chez Kia avec cette cinquième génération du Sportage, qui est le plus vieux nom de modèle chez Kia.
Parce qu'on n'a plus la Sephia.
Non, la Sephia n'est plus là, mais le Sportage, qui était là à l'arrivée de la marque, l'est toujours. Et on arrive avec ce cinquième modèle-là. On élimine la version turbo haute performance qu'on avait avant. pour ne conserver qu'une version à essence régulière. Donc, nouveau 4 cylindres, 2,5 litres, 187 chevaux qu'on emprunte au Sorento de base et qui fait un super bon travail. Et lorsque tu prends cette version-là, que tu la compares avec la compétition, un CR-V, un RAV4, un CX-5, tu sais quoi? Ce véhicule-là est vraiment compétitif. Plus spacieux, plus confortable, mieux insonorisé, beaucoup d'espace à l'intérieur, au point où tu peux te demander si c'est pas aussi spacieux que l'ancien Sorento, par exemple. Puis on a pris soin aussi de mettre cette grosse planche de bord numérique incurvée qu'on emprunte à la Kia EV6 dans les modèles haut de gamme. Tu sais, on a mis le paquet.
Mais? Ouais, je sentais qu'il y avait un mais, là.
Sauf que lorsque tu compares cette version à essence-là avec l'hybride qui est accessoirement disponible en deux versions, parce que le modèle à essence est disponible en 6 versions, mais là, tu te rends compte soudainement que le modèle à essence devient inintéressant. Parce que la version... Il existe deux versions du modèle hybride. Une version EX qu'on vend, transport préparation inclus à 38 000 $ puis une version SX qu'on vend à 44 000
okay.
Autour de transport préparation inclus. L'équivalent à essence de la version EX, donc à équipement égal, coûte 400 $ de moins.
Donc, on n'a aucun intérêt de prendre une version à essence.
Avec la version hybride, tu gagnes 40 chevaux de puissance.
Et une économie...
Et tu gagnes 3,2 litres au 100 en consommation.
Pour 400 $ de plus au PDSF.
Au PDSF.
Ça n'a aucun bon sens.
Et pour la version la plus luxueuse, bon, on n'a pas de modèle équivalent. On a un SX dans l'hybride, puis on a un X9 Premium dans la version essence. Mais si tu compares ces deux versions-là avec un équipement à peu près équivalent, tu es autour de 1400 $ de différence. Alors, il n'y a rien au monde qui justifie. Tu sais, moi, demain matin, je ne me pose pas la question. C'est un no-brainer. Tu prends l'hybride tout de suite.
Et pourquoi ne pas offrir simplement une version hybride, justement?
Bien, on ne veut pas la pousser.
Ouais.
C'est évident. On était là-bas. Puis la
on
ne
veut pas
chose...
la pousser, mais on ne l'a pas mis 10 000 $ de plus pour être sûr de ne pas en vendre.
Bien, c'est parce qu'on est... on serait pas compétitif dans le monde de l'hybride si on la vendait plus cher
ouais.
par rapport à Toyota, par exemple.
Ouais.
Sauf que le modèle d'affaires de Toyota, c'est de vendre de l'hybride depuis 20 ans, ce qui n'est ouais. certainement pas le cas de Kia. Mais d'un autre côté, Kia font de l'argent avec les modèles à essence. C'est certain que c'est beaucoup plus profitable de vendre une version à essence qu'une version hybride.
Je l'entends.
Alors, j'ai l'impression qu'on freine l'arrivée de la version hybride qui va rentrer au compte-gouttes de toute façon pour maximiser la vente des modèles à essence parce qu'il est encore temps de le faire. Et quand je te dis que c'est la croisée des chemins, c'est que pour moi, c'est le dernier droit du sportage à essence. On essaie une dernière bonne shot, puis après ça, ben, le passage à l'hybride va se faire. Il ne faut pas oublier que d'ici quelques mois arrivera aussi la version hybride rechargeable qui, elle, va être éligible à des crédits gouvernementaux et qui pourrait, au final, coûter à peu près le même prix qu'une version hybride
normale.
Ou
à essence.
ou même à essence. Alors, à suivre, mais... Au final, je peux te dire que le sportage m'a impressionné, mais que c'est la version hybride qui, veut pas, va gagner le pari et ça va mettre de l'ombre sur la version à essence qui, pourtant, n'est pas à négliger.